on va passer donc à une série de ces questions. Je ne sais pas où se trouve le micro, et si vous avez d'ailleurs des questions à Laurent, profitez de l'occasion. Hein, donc, on va prendre une première série de trois questions, Laurent, et après on verra en fonction du temps, parce que tu dois nous quitter à midi et quart maximum.
Oui, on verra. Voilà.
Oui, bon. Vas-y. Bon.
Donc, c'est Jérôme Rivière. Donc, moi, c'est un témoignage et pas une question de généralisation sur le PSE. Pour avoir suivi un PSE il y a 2 ans et demi, on a été bien conseillé par Syndex, pas par Syndex, mais par CECAFI, hein, ils ont le droit aussi de Lyon. Pour information, le PSE, nous avons 70 personnes sur 300 qui sont parties. Il faut absolument qu'une commission de suivi sur les PSE, parce que ça permet de voir les entourloupes que les autres cabinets peuvent faire. Et il y a une chose très importante qu'il faudrait systématiser, c'est les reliquats de PSE qui puissent être redistribués aux salariés qui ont subi le PSE. Nous, ça représentait, après l'année de formation, une enveloppe d'à peu près 1 000 euros par personne qui ont été redistribués. C'est mieux que ce soit les mandataires qui se récupèrent cette somme-là et qui se la redistribuent. Il faudrait systématiser ça, parce que c'est de l'argent qui ne retombe pas sur les salariés et qui part inutilement, à mon avis, à droite à gauche.
Ok. Merci, Jérôme. Ensuite. Ok, Roland.
Bonjour, Roland Bouillet, cadre à La Poste, et il y a déjà longtemps, ancien membre de la commission exécutive de la Fédération unifiée des postes et télécoms, avant la création, avant la naissance de la F3C. Ma question elle porte sur, est-ce que tu pourrais nous parler de ce grand chantier qui va s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir sur la refonte du code du travail. En effet, la place du tiers, je t'explique, dans la négociation sociale, il y a le syndicat, les salariés, il y a le contrôle qui va être défini. Mais quand tout ça commence à s'enrayer, on fait souvent appel au tiers. Alors le tiers, c'est soit la loi ou l'attirail juridique ou le droit. On est un pays de droit, on a un code de la route, un code pénal, un code civil et on a un code du travail. Tout ça aujourd'hui, effectivement, en particulier sur le code du travail, il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de conneries. Hier soir à France 2, au journal, j'ai vu le journaliste parler de la semaine qu'on pourrait travailler 60 heures par semaine. Et juste après, on est parti en Suède nous parler de la semaine de 30 heures. Une semaine en œuvre dans le privé, difficilement dans le public en Suède, mais on est dans un truc assez fou. Ça mériterait une intervention de Laurent là-dessus.
Merci, Laurent. Ensuite, une dernière question, s'il vous plaît. On passe. Là, il y a Bruno, par ici. Bruno Planek.
Merci. Gaëtan Riquebourg pour GFI. Je voulais poser la question à Laurent qui expliquait qu'il fallait mettre en place dans une entreprise le rapport de force qu'est la négociation. Moi, je vois bien la négociation et le rapport de force, mais l'ordre des priorités me semble inversé. C'est-à-dire que c'est le rapport de force qui induit une négociation fructueuse. Et je voulais savoir comment tu proposais de mettre en place ce rapport de force pour avoir une négociation fructueuse qui n'aboutisse pas à un recul des droits.
Ok, merci. Du coup, un petit moment pour répondre, s'il vous plaît bien.
Ouais. Moi, ce que je dis, je vais commencer par la dernière question. C'est d'abord, il faut sortir cette idée qu'une négociation... parce que ça, c'est l'idée que diffusent tout un tas de gens aujourd'hui, qu'une négociation, ça se conclut toujours par moins. Il faut arrêter ça. Hein. Je veux dire, je peux vous assurer, si on prend l'ensemble du bilan de la négociation collective dans une entreprise, que ce n'est pas ce qui ressort. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est que pas de négociation, le statu quo, c'est moins. Mais moi, ce que je dis, ce n'est pas que le rapport de force, c'est la négociation. Ce que je dis, c'est qu'une négociation, c'est un rapport de force. C'est un des éléments du rapport de force. Le premier, si vous voulez, c'est comment on fait qu'on puisse avoir le rapport de force qui nous est plus favorable à la négociation, au-delà de tout ce dont j'ai parlé en termes d'appui de l'expert, de venir avec un certain nombre de propositions affirmées, d'être aidé par le syndicat, etc. C'est d'abord d'être appuyé par les salariés. Donc on ne va pas se raconter d'histoire, hein. C'est d'avoir de nombreux adhérents. Quand on fait un seul dans une entreprise, ça ne veut pas dire qu'on gagne à chaque fois. Mais c'est plus favorable que quand on donne ce sentiment qu'on est hors sol. Et puis, c'est de partir en partant des réalités concrètes. C'est la proximité avec les salariés, cette capacité de porter de ce qu'ils vivent et les choses concrètes. Ça, c'est pour moi les éléments indispensables. Après, on peut bâtir les propositions, on bâtit les revendications. Et moi, je pense que, on peut se le dire, trop souvent... c'est pas les salariés sont on s'appuie pas assez sur ce que vivent les salariés, on met pas assez en avant sur ce que vivent les salariés pour mener les négociations. Et donc du coup pour que ce soit un vrai rapport de force, parce que c'est un rapport de force, la négociation, c'est pas un petit arrangement entre amis comme certains essaient de le faire croire, hein. C'est pas sur un coin de table on se met d'accord. Il y a des règles, il y a des fonctionnements. C'est pour ça que nous on se bat dans ce dont je vais parler tout à l'heure, pour qu'il y ait des vrais accords de méthode. Pour dire, voilà, c'est ça les conditions d'une négociation, c'est ça les choses qui doivent être fixées dedans. Mais on est fort, on est plus fort quand on a plus de voix aux élections professionnelles, quand on a des adhérents nombreux, sans évidemment forcément être obligé de donner ni le nombre, ni le nom, évidemment. C'est ça qui fait la légitimité d'une organisation syndicale. C'est pour ça qu'il y a 7-8 ans maintenant, dans nos débats internes, on s'affrontait sur est-ce qu'il faut les règles de la représentativité. Il y avait des copains qui légitimement étaient inquiets en disant « Ouais, mais nous, on n'aura peut-être pas la représentativité. » Ouais, mais finalement, on s'est aperçu que ceux-là, souvent, l'ont obtenu parce qu'ils ont fait la preuve de leur utilité. Et ben, moi, je considère que le premier élément du rapport de force, c'est ça. C'est la confiance que les salariés font dans ont dans leur organisation syndicale, la nôtre ou d'autres, la nôtre si possible. Et puis après, les d'autres éléments du rapport de force, ben, c'est tout ce qui est dans l'arsenal de ce que peut mobiliser une organisation syndicale, hein. Moi, je ne vois pas pourquoi, parce qu'on serait les adeptes du dialogue social, on se priverait de d'autres éléments qui sont la contestation, la manifestation, la mobilisation des salariés, etc. Ne nous laissons pas confisquer cet aspect-là du syndicalisme parce que nous, on considère qu'on veut un syndicalisme abouti qui aille jusqu'à l'obtention de résultats concrets et que ça se fait par la négociation. Et moi, enfin, il faut qu'on se le dise. Alors, tu l'as dit toi-même, c'est difficile de mobiliser les salariés dans un certain nombre de vos champs. Parce que je vais tout à l'heure voir les copains de la Caisse d'épargne. C'est 450 sites, la Caisse d'épargne Bretagne, Pays de la Loire. Évidemment que le jour où il y a un mouvement de mobilisation pour le réseau X ou Y, c'est plus difficile que de le faire à l'aérospatiale ici. C'est plus aérospatiale, pardon, à Airbus ou à STX. Évidemment, c'est un peu plus difficile. C'est la réalité du salariat et celle-ci aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut qu'on sache réinventer d'autres moyens de mobilisation, y compris le numérique nous en permet un certain nombre, y compris le fait de pouvoir peser sur la réputation de telle ou telle entreprise. Il ne faut pas qu'on se prive, quoi. Et donc, mais je n'ai pas dit que le rapport de force, c'était la négociation. C'est la négociation qui est un rapport de force. Pour avoir négocié souvent, je peux vous assurer que c'est un vrai combat. Et je pense que j'ai plus combattu sur la question des retraites, là, même si je n'ai pas négocié en tant que tel, on a plus combattu sur la question des retraites que les organisations syndicales qui se disent combatives sur ces questions-là. Parce que nous, on a essayé de se battre, parce que le patron, pour nous, c'est l'adversaire avec lequel on se rencontre. Sur moi, je crois que l'illustration de ce que dit Jérôme, c'est, je suis d'accord sur les reliquats, mais ça, ce qui est posé pour nous, c'est souvent le suivi de ce qu'on obtient, quoi. C'est là où on n'est pas franchement super bon.
Ouais, pardon. C'est pas, on n'est pas toujours super bon sur le suivi de ce qu'on obtient et pour illustrer ce qu'on obtient. Je vais prendre un exemple. La complémentaire santé, alors avec des pressions de solidité, va se mettre en place pour tous les salariés. C'est plus de 800 000 salariés qui n'avaient pas de complémentaire qui vont en avoir une. C'est plusieurs millions qui n'avaient pas de complémentaire payé par les salariés, par leur employeur, une partie qui vont avoir une partie de contribution par leur employeur. C'est en janvier, ça. Je vous donne en 1000 qu'on est capable de se faire doubler sur la valorisation de ce résultat par ceux qui n'ont pas signé l'accord. Je peux vous donner en 1000 que les 3 ans, moi j'ai un truc qui m'a fait hurler à la Confédération Ile-de-Sal, c'est que le fait que toutes les années d'apprentissage comptent désormais pour le calcul des retraites, Et un jour, on m'a rapporté un tract que la CGT distribuait devant les CFA pour expliquer aux apprentis qu'elle avait obtenu ça. Elle n'avait pas, évidemment, validé ce projet. Pareil sur la pénibilité, etc. Là-dessus, il faut qu'on soit meilleur, quoi. C'est clair. Alors moi, je ne sais pas, parce qu'on a un petit côté culturel, j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais on a du mal à expliquer ça, parce que peut-être on considère qu'on aurait obtenu, moins, mais voilà, il faut qu'on sache faire ça. Sur la refonte du Code du travail, c'est pas la question de la refonte du Code du travail. On s'est fait, je veux dire, moi je l'ai dit, la question du, le débat sur le Code du travail est un débat de feignant. J'étais dans une table ronde il y a maintenant un petit peu de temps, parce que vous allez voir pourquoi il y a un peu de temps, avec deux acteurs, avec Gattaz et Le Pen. Il y en avait un qui disait il faut diviser par 10 le nombre de pages du Code du travail, et l'autre qui disait non, il faut plus de pages pour plus de protection. C'est pas comme ça que ça marche. Là, il faut, nous, ce qu'on préconise, c'est un socle de garanties élevé. Donc, on a beaucoup œuvré pour, évidemment, le SMIC, la durée légale à 35 heures, le contrat de travail, etc. Mais après, la capacité à ce que ce qui est détenu dans le socle de garanties, il y ait de l'espace pour la négociation collective dans la mise en œuvre de ces garanties au plus près de où, là où sont les salariés. Parce que, et ça, part avec des conditions, c'est-à-dire avec accord majoritaire, avec accord seulement avec des organisations syndicales, précédé d'accords de méthode, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ce débat-là, c'est pas un débat autour du Code du travail, qui est un débat de feignant, je le répète, c'est un débat autour de la place de la négociation collective pour assurer les garanties aux travailleurs. Et moi, je suis désolé, je suis persuadé que toutes les, avec la diversité des entreprises qui sont là, et on le voit bien, plus il y a de négociations collectives dans les entreprises et les branches, plus il y a de garanties aux salariés. Il suffit de regarder, hein. Ceux qui sont aujourd'hui quand même couverts par des accords sont en général en situation moins difficile que ceux qui sont couverts juste par le Code du travail. Donc c'est ça qui est actuellement en débat. Je ne sais pas vers où ça ira, je ne suis pas très rassuré après ce qui est sorti hier, parce que c'est encore assez fumeux, mais le côté on se satisfait parce qu'il y a un Code du travail dont personne quand même honnêtement sait complètement l'utiliser, en tout cas pas suffisamment de gens. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est problématique, c'est les garanties qui sont dedans, c'est la façon dont on les met en œuvre pour les travailleurs. Donc, on va s'engager dans ce débat, et vous savez, il y a des moments où, je vous le dis aussi franchement, si d'autres ne prennent pas leur part de responsabilité, ce n'est pas toujours à nous de le faire à la place de tout le monde.
Ok, c'est bon, on va prendre une dernière série de questions. 4 questions maximum, Gwen, s'il te plaît.
Moi, je voulais revenir sur le dialogue social. Donc, j'appartiens à une filiale qui met en place un système de management d'entreprise libérée. Donc, en résumé, c'est des réunions de travail, des groupes de réflexion, on coopte son supérieur, on informe régulièrement les salariés. Donc, je m'interrogeais sur la place des IRP dans ce système de management.
Ok, merci Marité. Ensuite, Gwen, tu as pour nous.
Bonjour. Rudy, société ACV, on est 130 personnes, on fait partie d'un groupe de à peu près 300, États-Unis et puis France. Voilà, nous c'est pour faire, enfin moi c'est pour faire un constat positif, on vient juste de finir de négocier le PERCO. C'est une chose qu'on avait commencé en 2013, il n'y avait rien, c'était au ras des pâquerettes de la direction, on ne voulait rien faire. On a réussi en s'aidant justement d'experts comme. Humanis, Interexpansion, on a fait appel à eux parce que bah, on n'a pas forcément toutes les clés, donc on avait besoin de savoir. Et quand en réunion, ils nous disaient des choses, on pouvait contrecarrer en disant non, c'est pas vrai, c'est pas la loi. Et la loi, elle est comme ça. Et ça, ça les a bien mouchés. Et ça a permis, là, il y a quelques semaines, d'aboutir au PERCO. Et le PERCO, on a réussi à négocier 300% d'amendement. Donc c'est le maximum légal. Donc voilà où on en est, et alors qu'on était parti de rien.
Ok, merci beaucoup, bravo. Et grâce aux
outils. En fait, on a réussi en se restructurant nous en interne, c'est-à-dire que mon collègue d'à côté, qui est délégué syndical, moi je suis secrétaire du CE. Avant, mon collègue avait les deux casquettes, c'était pas facile, du coup on a changé, enfin vraiment il a partagé. Maintenant il est vraiment DS, donc c'est lui qui a le pouvoir de signature. Et on a pu travailler, enfin se partager le groupe, on est 10, là on a réussi à mieux se restructurer. Voilà, merci.
Merci Rudy. Ensuite, il y a Bruno.
Bruno Blonnet, Orange, DS, MUTP, UCHAC. Ma question porte sur une nouvelle loi qui a été votée, je crois que c'est l'été dernier, la loi Rebsamen. Aujourd'hui, donc, on est en attente des conséquences de cette loi sur le fonctionnement des IRP. Donc on a assez peu d'informations là-dessus. Est-ce que tu as quelques informations à communiquer, deux ou trois mots là-dessus? Merci.
Merci.
J'ai une question sur, qui est un peu sur l'ensemble de tout ça, c'est-à-dire l'implication des IRP dans les entreprises et au-delà de ça, les militants, nécessite deux choses très importantes. Un investissement en temps, qui en général, dans notre champ en particulier, est déjà largement bouffé par le temps de travail, puisqu'on a des journées à rallonge, et on a besoin de mobiliser en général largement au-delà des temps de délégation prévus. Au-delà des expertises et des choses comme ça qui sont proposées, qui sont dans le code du travail, qu'on fait jouer ou qu'on ne fait pas jouer, on a nécessité pour celui qui commande l'expertise d'avoir le niveau de technicité assez important pour comprendre les questions qu'on pose et comprendre les réponses qui nous sont données. Donc là-dessus, on a une problématique qui est générale, qui est large, c'est celle du temps à investir et de la technicité à acquérir. Donc tous les soutiens qui sont donnés par les syndicats, la formation, etc. sont les bienvenus. Et en règle générale, il y a un télescopage qui se fait entre le temps militant, le temps adhérent, le temps élu et le temps familial, le temps de dormir, le temps de manger, le temps quoi. Ça pose des questions pour aujourd'hui et pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on peut simplifier le code du travail d'une part, il n'en reste pas moins qu'il faut des gens pour le comprendre d'une manière ou d'une autre. Il faut du temps pour négocier, il faut comprendre ce qu'on négocie et préparer ça. On a donc des gros problèmes sur le temps de délégation tel qu'il est prévu aujourd'hui, d'une part, et aussi, plus largement au niveau du militantisme et des syndicats eux-mêmes, on a un changement générationnel, des entreprises qui ont des temps qui sont prévus, des temps de droits syndicaux, qui ne vont pas perdurer dans l'avenir, surtout dans notre champ. On a, au sein de notre syndicat, des choses qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour permettre de subroguer de la subrogation pour certains de militants qui s'engagent, et c'est ces gens-là qui sont la ressource des militants dans les entreprises qui appellent à l'aide. À un moment donné, on va se retrouver en situation de blocage pour l'avenir. Quand ces entreprises n'auront plus le droit syndical et que les entreprises du champ Syntec, par exemple, vont devoir trouver des militants, ils vont pas en trouver, on va se retrouver dans des situations de RPS. Voilà. Et j'ai pu donc passer ma troisième page que je peux plus passer.
Merci. Ouais.
Sur l'entreprise libérée, c'est une vraie question. C'est pas simple. Nous, vous savez, on a eu ce débat-là au congrès de Tours, je m'en rappelle, où on a doute, on pousse, et on l'a obtenu dans l'accord qualité de vie au travail, qui est des espaces de parole dans les entreprises pour les salariés, parce qu'on considère. C'est historique pour la CGT que c'est quand même les salariés qui sont les mieux placés pour parler de leur travail, d'un certain nombre de projets. Ça pour nous, et on a eu un débat à ce moment-là en disant il faut que ce soit un temps syndical, que ce soit maîtrisé par les organisations syndicales. Moi, j'ai été intervenu en disant non, je pense que les salariés parlent, c'est quand même pas un problème, même si c'est pas forcément dans un cadre syndical. C'est à nous d'être assez intelligents pour repérer ça, l'utiliser à bon escient, à sens instrumentaliser, pour en faire un élément de stratégie syndicale. Et donc, moi, j'ai un peu de... Je n'aurai pas une réponse oui ou non. Enfin, j'aurai une réponse oui pour dire oui, il y a une place pour les IRP dans ce style de management, à condition que ce type de management ne soit pas un faux-semblant et que ce ne soit pas une instrumentalisation pour se passer du dialogue social. Ce n'est pas du dialogue social, ce que tu dis. C'est du management peut-être plus intelligent qu'ailleurs, plus humain qu'ailleurs, mais c'est pas du dialogue social. Le dialogue social, c'est quand on discute d'intérêts divergents dans un cadre qui est prévu pour ça et où celui qui discute du côté des salariés n'est pas soumis à ce moment-là dans ce rapport de subordination. Parce qu'autrement, même quand le patron organise un temps où il discute avec les salariés, etc., ou le manager, vous êtes toujours soumis à ce lien de subordination. Donc, vous savez, moi, je vois bien en ce moment ce qui se passe à Smart, en disant on va prendre les salariés à témoin pour doubler les organisations syndicales. Ça, c'est l'antithèse de ce qu'est le dialogue social pour moi. Les patrons ne comprennent pas, Gattaz ne comprend pas ça en disant mais non, si on demande aux salariés, puisque vous représentez les salariés. Non, nous, on n'est pas que le porte-voix des salariés. On est les porte-parole de ce qu'est notre vision du monde du travail, de l'emploi, et en lien avec, avec nos valeurs. Et donc, il est hors de question de se faire doubler sur cette question-là. Mais ça ne veut pas dire que ce type de management n'est pas plus intelligent. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas dans ton entreprise, mais potentiellement plus intelligent que le management à la baguette qu'on connaît aussi parfois, malheureusement, dans nombre d'entreprises. Voilà. Mais vous savez, on peut avoir un management plus intelligent, plus humain, en développant dans le même temps le dialogue social. Je crois qu'il y a une entreprise de votre champ, et je vais sans doute me prendre des coups dans ces cas-là, je le sais, mais qui l'a quand même fait par rapport à une situation qu'on a connue il y a une petite dizaine d'années, c'est Orange, entre nous. Il y a un management qui, honnêtement, est sans doute un peu moins brutal qu'il ne l'avait été fut un temps, et ça n'a pas empêché le dialogue social, puis finalement, ça n'a pas empêché que la CFDT de devenir la première organisation dans cette entreprise. Sur Rudy, moi, enfin, voilà, y a pas, c'est une illustration parfaite de ce qu'une, comment s'organise une section syndicale, comment elle mène le dialogue social, le rapport de force, et se fait aider. Il y a juste un point. C'est que ça, moi, ma frustration, je vais vous dire, c'est que ça, ça ne nous remonte pas, quoi. Et moi, je sais pourquoi ça ne nous remonte pas. Parce que vous considérez juste que vous avez fait votre boulot. Et tout à l'heure, vous verrez sur la table, en sortant, il y a une petite, un petit prospectus parmi tout ce que fait bien le syndicat. Ça, c'est la Confédération, donc, qui s'appelle « La vie de nos acquis ». Nous, on essaye de mettre en avant ce que les sections syndicales font de bien. C'est comme ça qu'on redonnera de la vivacité au dialogue social en montrant. Voilà. Et ça, franchement, je vous le dis à tous, à vous, un petit mail, alors au syndicat, et pour qu'il remonte, mais des fois il ne remonte pas, à l'URI, à qui vous voulez, un petit mail pour dire voilà ce qu'on a fait. Nous, il y a quelqu'un qui vous appelle pour dire explique-nous. Parce que moi, j'ai besoin d'exemples comme ça quand je fais le tour des médias pour expliquer ce qu'est le dialogue social. Voilà, c'est des résultats concrets. Ça ne change pas la vie de tout le monde. Ça change la vie, enfin, une partie de la vie de ceux qui ont ces résultats dans votre entreprise, et ça montre à quoi ça le syndicalisme. Ensuite, c'est les questions plus chantes, là, je crois. C'est ça, pour gagner du temps, parce que je ne suis pas à droit avec Clément, donc il faut tourner après. Il reste 3 minutes, on va attendre. Hein. Sur la loi EFSAMEN. La loi EFSAMEN ne change pas pour une nombre d'entreprises radicalement le fonctionnement des IRP. Ça laisse une ouverture dans une entreprise qui voudrait discuter un fonctionnement des IRP différent dans les entreprises de plus de 300, la possibilité de le faire. Ce qui me frappe, c'est que beaucoup de sections syndicales CFDT sollicitent leur fédération pour dire « nous, on voudrait bien négocier parce qu'on pense qu'on peut faire mieux ». Mais ça, ça ne se ferait que s'il y a un accord majoritaire et si c'est du mieux, donc on est obligé de rien. Il y a une question d'évolution dans les moins de 300, et là, on attend le décret. Et nous, c'est le truc sur lequel on se bat à fond en ce moment, avec Marie-Lise Léon notamment, pour dire on veut des moyens conséquents dans les entreprises de moins de 300, et en temps, et en nombre de mandats. On est en train de... Je pense qu'on va obtenir plus de temps au global. Il y a aussi quelque chose qu'on a obtenu dans cette loi, hein, c'est quand même la mutualisation des heures et la possibilité d'annualisation. Vous savez comme moi qu'en août, ce n'est pas là où on utilise le plus nos heures délégation. Donc en gros, quand on en a 10, on en utilise 5, ben on en perd 5. J'ai fait un peu de calcul quand j'étais jeune. On a obtenu un certain nombre de choses. Mais vous savez, il y a un impact sur ces lois de modernisation du dialogue social. Vous avez une fédération qui a fait un SPOC, ne me demandez pas ce que c'est, je suis nul, un SPOC MDS. J'ai bientôt un chat, comment ça s'appelle, un truc, je vais là-bas pour discuter avec eux. Mais vous utilisez cet outil, c'est un outil d'aide à la mise en place de la loi modernisation du dialogue social dans les entreprises. Il faut le faire, il faut aussi travailler évidemment avec le syndicat et les structures interpro. Ce que tu dis, Olivier, c'est vrai. Hein. Être militant aujourd'hui, c'est avoir pas assez de temps de tout faire. C'est aussi, on se pose la question du temps syndical, hein, l'avenir du temps syndical, notamment mis à disposition du syndicat, mais aussi de la fédération, mais aussi de l'interprofessionnel, qui est extrêmement important. Il faut qu'on continue de se battre pour avoir des moyens syndicaux en tant que tel, mais il faut aussi que du côté des militants, on considère d'abord qu'on a toujours besoin d'être plus nombreux. La syndicalisation, notamment, j'ai cru comprendre que moi, je suis en dessous de la moyenne d'âge des militants dans le syndicat. Donc, il est grand temps, les copains. Mais ça veut dire que la syndicalisation, parce que plus on est nombreux, plus on partage aussi un certain nombre de tâches, de responsabilités, même si dans l'entreprise, ça ne reprend pas le nombre de mandats, mais enfin, ça donne du souffle. C'est aussi la question, tu l'as dit, de la formation, de l'accompagnement. Mais je finirai là-dessus. C'est, vous savez, la période n'est pas facile, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des périodes extrêmement faciles à un moment donné. C'est vrai que notre type de syndicalisme, il évolue parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où quand on était dans les Trente Glorieuses, la production de richesses, etc., on se battait pour qu'il y ait de bonnes conditions de travail, on se battait, enfin quand je dis moi je n'ai rien à foutre à cette époque-là, on se battait pour la répartition des richesses créées. Bah, c'est vrai qu'en situation plus difficile, le syndicalisme, il bouge. Mais il n'est pas moins noble, il n'est pas plus facile, il n'est pas plus difficile non plus, mais il est un peu différent, parce que ce n'était pas non plus facile pour nos anciens à ce moment-là. Mais il y a une chose qui doit rester, c'est la fierté de notre militant. Et puis il y a une chose que j'ai envie de vous renvoyer, c'est d'avoir vous dire bravo pour le boulot qui est mené, et aux copains qui sont sur l'estrade, mais aussi à vous tous. J'ai conscience, moi, que ce n'est pas toujours facile, mais j'ai envie de vous renvoyer une question, c'est est-ce que vous êtes heureux d'être militant aujourd'hui de la CFDT ou pas? Si finalement vous l'êtes, ça veut dire que finalement vous sentez que vous êtes utile, et dans ce cas-là, bah, finalement, il faut continuer. Ça ne rendra pas la période qui vient beaucoup plus facile, mais il y a un truc dont il faut qu'on soit persuadé, c'est que je crois qu'on est un rempart. On est un rempart à une dérive de la société vers une société autoritaire, et ça, on est un rempart pour deux raisons, parce qu'on porte des valeurs fortes, et parce qu'on apporte des résultats concrets aux salariés. Merci.
Merci. Alors, on va enchaîner avec Yvon Leroux de la Fédération. Merci beaucoup pour les bons sujets, Laurent. C'est bienvenu. Je pense que là, tu as une bonne liste de courses pour tes week-ends. Voilà, ça fera certainement des choses à remonter.
Moi aussi, j'ai pas le temps de tout faire.
Ouais, mais c'est compliqué. Voilà, en tout cas, merci. Un séjour et puis bon retour sur la capitale.
Ah mais non, mais là je pars pas, je vais juste pour vous dire, parce que
ça donne le sentiment que je me barre comme un voleur, c'est parce qu'ils m'ont pas invité à déjeuner en fait.
Et du coup, comme cet après-midi, je vais voir les copains de la section, je l'ai dit, de la Caisse d'épargne Bretagne, Pays de la Loire, je vais commencer par un déjeuner avec eux, parce qu'eux m'ont invité. Bon courage à tous, à bientôt.
Merci.